Carnet de voyage. Une invitation. Ooh, can't anybody see?
Bonjour à tous les auditeurs, nous sommes de retour pour une émission de Carnet de voyage avec Alexis Nuella. Bonjour Alexis.
Bonjour Gilles.
Les auditeurs te connaissent déjà car tu étais venu nous parler du Népal et aujourd'hui tu vas venir nous parler de l'arc alpin. Les auditeurs te connaissent peut-être aussi parce qu'ils ont déjà dû voir tes livres aux éditions du Fournel qui sont dans toutes les bonnes librairies. Combien de livres jusque-là ?
Actuellement, j'ai fait les 12 premiers livres sur l'arc alpin.
Quels sont ces 12 premiers volumes ?
11 sur la France, sur les Alpes françaises, et 1 sur le Val d'Aoste, donc sur l'Italie.
On va démarrer, disons, par la Slovénie.
En Slovénie.
Tu devais nous faire un cri de départ pour la Slovénie.
Si tu veux, allez, on y va.
Mais qu'est-ce donc ?
Ah ah, c'est le printemps qui revient, c'est le chant du coucou. Il faut écouter là, parce que les oiseaux s'expriment partout. Il y a les parades nuptiales, il y a les plumages qui sont extraordinaires. Là, j'ai croisé des vanneaux huppés dans les champs, j'ai vu des hirondelles. Enfin bref, le printemps arrive.
Alors, il faut rappeler que tu es ornithologue de formation.
De formation, et j'illustre beaucoup de livres sur les oiseaux en partie.
En Slovénie, tu avais des contacts là-bas qui étaient les gens d'un réseau alpin.
Effectivement, j'ai rencontré les gens du réseau alpin des espaces protégés. Il faut savoir que dans l'arc alpin, donc de la mer Méditerranée jusqu'à la mer Adriatique, il y a plus de 800 espaces protégés. Et le but du jeu, ce serait de mettre tous ces espaces protégés en corridor pour protéger plus efficacement la faune et la flore.
C'est une super idée, mais est-ce que ça peut réellement se faire ?
C'est en train de se faire. Et j'ai rencontré donc les Slovènes, les directeurs de parcs nationaux, et j'ai eu la chance de parcourir les réserves naturelles et les parcs nationaux slovènes à la recherche des indices de présence de l'ours, du lynx, du loup, et j'ai réalisé des centaines d'aquarelles sur place.
Donc ce parc national, il a un nom fabuleux, Triglav ?
L'un des parcs nationaux, effectivement, c'est le Triglav, qu'on prononce le Triglav.
Ouais.
Et c'est un sommet mythique que tous les citoyens slovènes se doivent d'avoir gravi. Pour être un citoyen slovène, il faut avoir gravi le Triglav, qui est un sommet pas très difficile, mais c'est assez long. C'est les Alpes juliennes. Et depuis le sommet, on a une vue extraordinaire sur l'Autriche, sur la Croatie, sur la mer Adriatique et sur les Dolomites, bien sûr, qui sont toutes proches.
Tu as pris une photo quand tu étais là-bas ?
Non, j'ai fait des aquarelles.
Tu t'es baladé à l'intérieur du parc ?
Alors j'ai suivi les rivières qui sont exceptionnellement limpides, où j'ai observé des truites marbrées. J'avais jamais vu de truites marbrées. J'ai exploré des forêts extraordinaires, très sauvages, où j'ai donc observé les grands prédateurs, où la plupart du temps leurs traces. Et puis j'ai beaucoup dessiné aussi le patrimoine, les chapelles, toutes les choses qui m'impressionnent. Et donc, je les ai mis sur le papier. J'ai l'intention de faire un nouveau carnet de voyage qui fera partie de la collection sur l'arc alpin qui s'appelle le parcours du gypaète. Le gypaète étant cet oiseau, le plus grand oiseau d'Europe, qui a été réintroduit dans les Alpes et que l'on appelle aussi le casseur d'os, puisque c'est un charognard qui a l'habitude de lâcher les os sur les pierriers pour les réduire en bouillie.
Et il sait que ça va faire de la bouillie qui lui servira à manger.
Ah oui, après il peut avaler les morceaux parce que les os sont pas toujours suffisamment petits pour qu'il les avale d'un coup. Donc les Espagnols, par exemple, l'appellent quebranta huesos, le casseur d'os. On peut l'observer aussi en Espagne, dans les Pyrénées, en Corse, dans les Alpes.
J'étais en Espagne pour la Sierra de Gora, il me semble qu'il y en a.
On peut l'observer avec les vautours fauves, les vautours moines et les vautours percnoptères.
J'ai entendu parler du gypaète barbu, c'est le même ?
C'est le même. C'est une espèce qui me sert de fil conducteur. C'est un peu le fil rouge de la collection qu'on retrouve de Monaco jusqu'à la Slovénie, en passant par la France, l'Italie, l'Autriche, l'Allemagne, la Slovénie et puis le Liechtenstein.
C'est ce que tu appelles l'arc alpin.
L'arc alpin, la vanoise. Ensuite, il va y avoir le Mercantour. Ça fait une vingtaine d'années que je vais régulièrement dans le Mercantour pendant les quatre saisons pour avoir des ambiances différentes. Et puis la Slovénie avec le parc national du Triglav.
Avec donc l'ours.
Le lynx, le loup, tous mes partenaires qui vont apporter leur témoignage à coups de pattes et de moustaches.
Revenons en Slovénie. Tu as également été voir le territoire où sont les ours, qui est près de la frontière croate.
Oui, donc j'ai traversé la Slovénie jusqu'à la Croatie. Et là-bas, j'ai fait un petit peu de kayak de mer, puisque c'est le paradis du kayak de mer. Il y a des côtes fabuleuses. Où autrefois on pouvait observer les phoques moines. Et j'ai donc eu la chance de faire des affûts, c'est-à-dire que je me suis posté au crépuscule, à l'orée de la forêt, et j'ai observé plusieurs fois des ours qui venaient sur des charognes qui avaient été disposées à leur intention.
Et quand tu, quand tu fais des affûts, tu es caché comment ?
Alors la plupart du temps, on est dans des petits miradors et on essaye de camoufler son odeur parce que l'ours a un odorat qui est particulièrement performant. Et donc, il faut surtout cacher son odeur et être en hauteur.
Et comment tu fais pour cacher ton odeur ?
Alors, soit on prend un morceau de barbac qu'on balance derrière nous, soit on essaye de éviter de se laver au savon de Marseille 5 minutes avant, ou on fait beaucoup de choses pour que l'ours ne nous sente pas. Mmh. Et puis j'ai des jumelles qui sont très lumineuses et qui me permettent d'observer même au crépuscule ou à l'aube. Mmh. C'est les Slovènes qui m'ont appris à s'approcher, et c'est eux qui sont responsables des parcs nationaux. Donc j'étais guidé par des gens de terrain qui connaissent parfaitement la faune.
Qu'est-ce qu'ils en font, eux, de leur observation ?
C'est une très bonne question, je ne sais pas. Il y a beaucoup d'artistes animaliers aussi en Slovénie. Il y a des gens qui font des photos animalières aussi. Mmh. Donc pour moi, c'est aussi partager une passion.
Tu as vu comme je pose de bonnes questions, hein. Tu as pu remarquer quand même.
Je suis passionné.
Comment tu communiquais avec eux ? En anglais ?
Surtout en anglais, oui, parce que je ne parle pas un mot d'allemand. Et il faut savoir que dans l'arc alpin, on parle surtout l'allemand.
Tu as dit kayak de mer et phoque moine. Tu as pu les observer aussi ?
Non. J'ai pas vu de phoque moine.
T'as pas vu ?
C'est pas gai pour les phoques moines. Puis des dizaines de milliers d'îlots, d'îles, de presqu'îles. Donc on peut naviguer comme ça en itinérance. C'est vraiment sympa. Et puis comme je fais de l'aquarelle, je peux tremper le pinceau directement dans la mer Adriatique. Ah. J'ai pas besoin d'emporter des litres et des litres d'eau. Je peux faire aussi des aquarelles à l'eau de mer. Une fois, il m'est arrivé de faire une aquarelle avec de l'urine. Parce que j'avais oublié mon eau, donc quand on a besoin de faire une aquarelle et qu'on a besoin de faire pipi, on peut associer les deux.
Tu pouvais lancer cette idée de faire des aquarelles au pipi.
Ça y est, c'est fait.
L'aquarelle a beaucoup plus de valeur, non ?
Peut-être. C'est surtout l'instant présent qui compte, le bonheur de créer dans la nature.
De nouveaux espaces de création. On pourrait peut-être parler un petit peu de Monaco, qui est l'autre partie.
Monaco, c'est un tout petit pays, hein, c'est un État qui fait partie des 8 pays de l'arc alpin. Et là, je me suis particulièrement intéressé à la faune sous-marine. Donc je fais un peu de plongée et puis j'essaye de dessiner sous l'eau. Donc ça, c'est une nouvelle expérience. Et puis kayak, bon, et puis surtout le Mercantour qu'on aperçoit au loin, qui est un parc national extraordinaire où j'ai pu dessiner les bouquetins en particulier. J'ai retrouvé le gypaète barbu qui a été réintroduit dans le Mercantour. Et puis de temps en temps, je rencontre aussi des gens extraordinaires sur les sentiers, par exemple des comédiens, des conteurs, des intermittents du spectacle.
Dont on parlera en deuxième partie. Dessiner sous l'eau, est-ce que c'est très difficile ?
Je travaille avec des pastels gras, donc ça me permet de dessiner. Parce qu'une aquarelle sous l'eau, c'est pas très facile. Donc je fais des croquis et puis j'essaye aussi de mémoriser des formes, des couleurs et puis de dessiner quand je suis sur le bateau tranquille. Un chevalet pour me poser, donc un espèce de carton qui est complètement imperméable, bien sûr, et puis un crayon qui peut être du pastel. Ou un crayon qui est adapté au dessin aquatique.
On va faire une petite pause musicale et en deuxième partie, on va parler de tes rencontres qui sont liées à l'album La Vanoise, hein, ça on va le voir, on va le comprendre, et également de ce que tu as dit tout à l'heure, les conteurs qui ont été également sur ton chemin.
À toute allure.
Bonjour à tous les auditeurs de RCF, nous sommes toujours dans Carnet de Voyage, toujours avec Alexis Nouella. Nous avons vu les deux extrémités de l'arc alpin, la Slovénie et puis la partie Monaco-Mercantour. On a compris que tu avais fait des rencontres qui sont en relation avec l'arc alpin.
Oui, alors sur les chemins c'est extraordinaire parce qu'on a le temps de discuter, de rencontrer les gens. Parfois ce sont des gens extrêmement intéressants. Et je me rappelle d'un conteur qui s'appelle Richard et... C'est un conteur qui est barde. C'est rare de croiser un barde sur les sentiers.
Oui.
Et en plus, il est chapelier. Il fait des chapeaux extraordinaires, colorés, en feutre. Et alors moi, j'invite les auditeurs à regarder son site. C'est latoisondart.net. C'est un barde et chapelier. Et puis un peu plus loin, je tombe sur une comédienne qui était en train de répéter en pleine montagne et qui s'appelle Agnès. Elle était en train de faire un sketch avec son compagnon Mathieu. Et là aussi, j'invite les auditeurs à regarder son site qui s'appelle Tourneboule, avec un S à la fin. Et ce sont des gens qui habitent dans la Drôme et qui voyagent, qui font des choses extraordinaires. Alors moi, je les ai dessinés déjà, et puis ils m'ont fait quelques jonglages. La création amène la création. C'est quand je vois des gens qui sont sculpteurs, musiciens, qui sont en montagne, sur les sentiers, tout de suite, je ressens le désir de comprendre quelle est leur motivation, et puis de voir ce qu'ils font, et puis de leur montrer aussi ce que je fais. Il y a tout un échange qui est très riche.
Mais toi, quand tu es en balade comme ça, tu emportes de quoi dessiner, ça, bien sûr. Et tu emportes aussi pour montrer aux gens sur ton travail.
J'ai toujours 2-3 bouquins dans mon sac à dos que je montre aux gens. Et puis, j'ai mes pinceaux, mes crayons, mon aquarelle. J'ai un petit numérique maintenant parce que je m'intéresse beaucoup aux insectes. Et il y a une association à Gap qui s'intéresse aux insectes. Tous les gens passionnés de papillons ou de punaises peuvent nous rejoindre. Je propose de rejoindre maintenant la Vanoise. Alors là, j'ai rencontré une alpagiste qui s'appelle Agnès et qui m'a donc présenté son travail. L'intérêt du carnet de voyage, c'est de faire des aquarelles et puis de recueillir des témoignages. Donc là, je n'étais pas tout seul, j'étais avec une amie qui est journaliste qui s'appelle Françoise Cadou, qui travaille pour des magazines comme Roadbook, un magazine du voyage. Et grâce à Françoise, on a pu rencontrer cette alpagiste, Agnès. On a rencontré des gardiens de refuge au pied de la Dent Parachée, un des sommets mythiques de la Vanoise. Et puis, à force de se balader comme ça, on a fini par croiser aussi 2 gardes-moniteurs du parc national de la Vanoise, Alex et Yeti. Et oui, on l'appelle Yeti. C'est un garde-moniteur qui passe son temps à observer la nature. Et puis, donc j'y avance comme ça avec mes crayons pour écrire, avec mes pinceaux pour peindre, avec mes jumelles pour observer. Et puis, le fil rouge de ce nouveau carnet de voyage, c'est bien sûr le bouquetin des Alpes. Animal qui a bien failli disparaître, puisque en 1800, il n'y avait plus qu'une centaine de bouquetins dans l'arc alpin. Et il faut savoir que c'est un chasseur, le roi Victor Emmanuel, qui a sauvé l'espèce en créant en 1836, si je ne dis pas de bêtises, une réserve royale qui deviendra plus tard le parc national du Grand Paradis en 1922. Et si maintenant vous allez dans la Vanoise, qui est un parc national depuis 1963, c'est le premier parc national en France, vous pourrez voir au moins 2000 bouquetins. L'espèce est sauvée.
Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre à la Vanoise à part les bouquetins?
Toute la faune de montagne, l'aigle royal, le lagopède alpin, le tétralyre, le casse-noix moucheté. On peut voir aussi des passereaux, les becs croisés, on peut voir le venturon montagnard. Et puis, alors là, au niveau des fleurs, c'est infini. Au niveau des insectes, c'est très, très riche. C'est un des plus beaux parcs nationaux du monde.
Et du coup, toi, tu t'es baladé donc, du refuge de la Dent, c'est ça?
Oui.
Jusqu'à quel autre refuge?
J'ai fait le tour du glacier de la Vanoise, en passant par une multitude de cols, plus ou moins élevés. Et puis, j'ai rencontré à chaque fois des randonneurs, des gardiens de refuge, des bergers, des alpagistes, des... rencontrer les gens pour découvrir un massif ou un territoire.
Et plus je te regarde, plus je vois les bouquetins à travers toi. Tu pourras bientôt te croquer toi-même en bouquetin, à mon avis.
Oui, je fais souvent des auto-caricatures, d'ailleurs. J'ai rencontré le directeur du parc national de la Vanoise. D'ailleurs, c'est un livre qui est en partenariat avec le parc, puisque je travaille souvent avec les réserves, les parcs régionaux, les parcs nationaux.
Je crois qu'il y aurait quelque chose d'autre à dire. Ce serait les sites sur la nature que tu connais. Alors, ça, c'est intéressant.
Les gens qui s'intéressent aux oiseaux et aux chants d'oiseaux, il y a un site extraordinaire. C'est studioles3becs.com. 3becs, en un mot, ce sont des amis qui enregistrent les sons de la nature et ils font des choses extraordinaires. À voir absolument.
Ok.
Et puis, si vous voulez voir la collection sur l'arc alpin, le site, c'est édition au pluriel -Fournel, FOURNEL.fr. Et puis ensuite, je vais m'attaquer à la Suisse, donc le Valais, l'Oberland, le Tessin, l'Engadine. Et puis ensuite, je vais continuer l'Italie par le Piémont, le Val d'Aoste, la Lombardie et les Dolomites. Ensuite, l'Autriche avec le Tyrol, l'Autorne, Salzbourg, Vienne. Et puis l'Allemagne, forcément. L'Allemagne fait partie aussi de l'arc alpin avec les Alpes bavaroises. La Slovénie, on en a parlé. Et puis deux tout petits pays qui font partie quand même des 8 pays de l'arc alpin, paraît-il. C'est Monaco et le Liechtenstein. La collection est un hommage à un ami, un alpiniste qui est mort en montagne en 2004 et qui s'appelle Patrick Béraud.
Tu pourrais rappeler les albums que tu as fait sur le 05 ?
Alors sur le 05, il y a l'Ubaye, le Kera, le Dévoluy, les Écrins. Et puis autour, la Chartreuse, le Vercors, Belledonne. Les Bauges.
En album, en dehors de l'arc alpin, tu en es à combien ?
J'ai fait une cinquantaine de carnets de voyage sur le Népal, sur la Patagonie, sur la Grèce, sur le Yémen. Et ce n'est que le début.
Du combat, oui. Continuons.
Un combat non violent.
Merci Alexis d'avoir étendu l'arc alpin devant nos yeux ébahis. Souhaitons que la flèche qui est sous-tendue par cet arc frappe directement le cœur des auditeurs. Oh.